Nous sommes ici aux réserves du matériel roulant de la RATP qui abrite donc à Villeneuve-Saint-Georges une collection de métros, de tramways, d'autobus. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'histoire du réseau d'autobus parisien à travers le passage successif dans certain nombre de ces modèles. D'abord, en fait, je voulais revenir un petit peu sur l'histoire de ce réseau qui est l'un des premiers au monde et surtout dans cette ambiance assez automobile, revenir sur ce monde de l'hippomobile, des véhicules tirés par des chevaux en deux mots. Alors d'abord pour rappeler que en fait les transports urbains naissent en même temps que le chemin de fer. On connaît souvent bien le monde du chemin de fer, sa naissance dans les années 1820-1830. Notamment en Grande-Bretagne, eh bien, c'est à cette même époque en fait, hein, que se mettent en place les premiers réseaux de transport collectif en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans les années, fin des années 1820, début 1830. À Paris, c'est en 1828 que s'ouvre la première ligne de transport hippomobile, c'est-à-dire des sortes de diligences urbaines hein, qui font des parcours avec un tarif fixe et puis rapidement ces transports sont très vite un monde de la concurrence avec de très nombreuses compagnies qui dans les années 1830-1840 offrent un service de transport collectif. Et pourquoi est-ce que ce créneau se met en place? C'est parce que en fait la ville s'industrialise, la ville s'étend, la ville s'intensifie et donc on a de plus en plus de besoins de mobilité sur des distances qui sont de plus en plus grandes, si bien qu'il y a une pertinence à avoir ces transports urbains. Et donc la ville que l'on connaît comme étant déjà industrielle, celle de l'haussmannisation, c'est une ville qui est, pour ses transports urbains, entièrement hippomobile, aussi beaucoup à pied, la marche bien sûr, le transport ferré étant pour les distances soit interurbaines, soit aussi la desserte progressive de la banlieue. Ce monde de l'hippomobile, il va demeurer dominant jusqu'à la belle époque, jusqu'aux années de la motorisation, c'est-à-dire entre les années 1900-1914. Dans ce monde de l'hippomobile, on a essentiellement deux types de véhicules. On va avoir les omnibus hippomobiles, donc tirés par deux ou trois chevaux, qui sont des véhicules qui prennent une trentaine de personnes. Et puis on a aussi les tramways hippomobiles qui nous viennent des États-Unis, une invention new-yorkaise, et qui vont avoir un peu plus de mal à s'insérer dans certaines villes européennes comme Londres, comme Marseille, Bordeaux ou Paris, où ils vont plutôt être relégués en périphérie et plus ou moins refusés au centre, notamment pour des raisons sociales, puisqu'ils permettent d'abaisser les tarifs, d'aller plus loin et donc d'avoir une mixité de population un peu plus forte, alors que l'omnibus au 19e siècle est un mode plutôt bourgeois. Paris est une ville qui est notamment marquée au 19e siècle par des expositions universelles qui sont de moments d'accueillir des millions de voyageurs, de visiteurs, excusez-moi, et ces millions de visiteurs deviennent des millions de voyageurs. Et à chaque exposition universelle, donc entre 1855, 1867, 1878, 1889, celle de la Tour Eiffel, et 1900, eh bien, on s'aperçoit qu'il est difficile de véhiculer ces millions de voyageurs et l'omnibus hippomobile atteint largement ses limites lors de ces grands événements. Et il atteint aussi ses limites en dehors, sur les grands boulevards, on a la queue de voyageurs qui attendent le long du trottoir, ces véhicules sont assez lents et donc l'offre est assez limitée. Mais Paris met des décennies à sortir un projet de métro qui n'aboutira qu'en 1900, presque plus de 50 ans après les premiers projets, pour des raisons essentiellement de blocage institutionnel entre l'État et la ville. Et donc en surface, ça ne se passe pas si bien, c'est assez limité, il y a une sorte de déficit d'innovation, le tramway étant en partie refusé, si bien que la deuxième partie du 19e siècle est marquée par le fonctionnement de véhicules qui sont presque hors d'âge, en fait, en tout cas hors de capacité avec ce qui est demandé. Et la principale ligne, celle de ce qu'on appelle Madeleine-Bastille, le long des grands boulevards, c'est une ligne qui voit une fréquence d'omnibus de 1 omnibus à la minute. Il y a vraiment une très forte demande à laquelle le service hippomobile a du mal à répondre. Et ce n'est qu'en 1900 qu'on va avoir une réponse qui en fait arrive avec le métro, mais arrive bien tardivement par rapport à Londres qui, en 1863, a ouvert son premier métro. Et Paris ne fait partie que de la vague de création des métros des grandes villes européennes et américaines des années 90-1910, qui ouvrent directement des métros électriques comme Glasgow, Vienne, Buenos Aires, New York et donc Paris en 1900. Ce métro va complètement bousculer le jeu des mobilités parisiennes en imposant d'une part une nouvelle notion de vitesse, en permettant une massification très importante, en réduisant les tarifs aussi, en unifiant avec son fameux tarif unique qui est très puissant et qu'on conserve encore aujourd'hui. Et le métro va forcer la surface à évoluer. Simultanément, sans que ça ait aucun rapport, ce moment de la Belle Époque, c'est aussi celui de l'essor de l'automobile. Et l'automobile, autant c'est une invention qu'on doit essentiellement aux Allemands, autant en fait son usage, ce qu'on peut appeler l'automobilisme, naît à Paris. Et c'est vraiment à Paris qu'on a cette société de l'automobile, de gens très aisés qui se met en place autour des sportsmen, des gens qui aiment le sport, aiment le risque, aiment aussi le travail du moteur, hein, finalement le bricolage qu'imposent ces moteurs qui ne sont pas encore complètement fiables. Et ce monde de l'automobile, qui est un monde très élitiste, il va connaître une forme de dérivé collectif qui est cet autobus. Et forcé par le métro d'un côté qui lui mange des parts de marché et par la dynamique qui se passe en surface où on va voir des véhicules accélérés puisque motorisés, la compagnie générale des omnibus, qui a le monopole des omnibus, va devoir passer à la motorisation. Elle motorise son parc en deux temps, d'abord autour de 1905-1906, quelques lignes pour montrer qu'elle sait le faire. Et puis en 1910, une fois qu'elle a réussi à obtenir le renouvellement de sa concession, eh bien, elle va commencer à généraliser la motorisation de ses véhicules. Une motorisation, il y a eu plusieurs tests qui ont été faits. Elle se fait, elle, sur un moteur thermique, mais elle aurait pu se faire sur d'autres solutions, vapeur, électrique ou hybride. Mais le thermique a été jugé plus efficace. Et si bien que lorsqu'arrive la Première Guerre mondiale, 1914, à Paris, il n'y a plus une seule ligne d'omnibus tirée par des chevaux. L'omnibus a disparu, il est devenu l'autobus, environ 3000 à peu près. Et c'est la même chose à Londres, en 1913, plus aucun véhicule tiré par des chevaux. Ce qui fait que les deux plus grosses villes européennes ont motorisé leur flotte assez rapidement en quelques années et disposent à l'ouverture de la guerre de la plus grande flotte de poids lourds de leur pays. Ce que l'armée va directement utiliser, puisque lorsque le conflit éclate à l'été 14, eh bien immédiatement, selon des plans préétablis et des exercices qui avaient été faits les années passées, l'armée va envoyer ses autobus sur le front. Alors, côté français, ce ne sera jamais pour combattre, ce sera pour le déplacement des troupes, pour leur ravitaillement, notamment en viande. On va transformer les intérieurs de bus en sorte de boucherie ambulante, alors que les Anglais vont les utiliser de façon encore plus polyvalente, puisqu'il y a 3000 autobus anglais qui passent la Manche et qui vont même aller jusqu'à combattre équipés de mitrailleuses, etc., dans les tout premiers mois de la guerre, avant que les industries nationales soient capables de construire des poids lourds adaptés aux conditions de la guerre. Ce qui signifie en retour que lorsque la guerre éclate, eh bien, à Paris, il n'y a plus d'autobus. L'autobus va disparaître en 1900, donc à l'automne 14, il n'y en a plus un seul. Et pendant jusqu'à 1916, on n'a plus un seul autobus qui roule. Alors on a des tramways et on a surtout le métro. Et progressivement, avec l'autorisation du ministère de la Guerre, des autobus vont revenir d'abord sur la ligne des boulevards et puis sur d'autres lignes progressivement. Arrive l'armistice. Et alors c'est assez intéressant de noter que aussi bien la Première Guerre mondiale que la Deuxième Guerre mondiale sont des événements extrêmement importants pour cette histoire qui peut paraître très locale des transports urbains. Qu'est-ce qui se passe avec la Première Guerre mondiale? C'est que qui dit guerre dit inflation. L'inflation, les pouvoirs publics essayent de la juguler. Et comment est-ce qu'ils la jugulent? En limitant certains prix sur lesquels ils ont les leviers d'action. Et parmi ces prix, eh bien, il y a le ticket de transport. Et en fait, donc, ils vont limiter la hausse des tickets de transport, aussi bien métro que bus ou tramway, mais les coûts, en revanche, des compagnies, les coûts de personnel, puisqu'on a des indemnités en fonction du coût de la vie pour le personnel pendant la guerre, et puis surtout le coût des matières premières, est très important et augmente fortement, si bien que les compagnies se trouvent en état de quasi-faillite, voire de faillite, à la fin de la guerre. Et là, ça impose au pouvoir public de s'investir au sortir de la guerre bien plus dans l'exploitation, enfin dans le contrôle en tout cas, de ces systèmes de transport que ce qui avait été le cas au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on a une considération que ce système des transports urbains peut tout à fait être privé ou encadré de façon extrêmement lâche par des concessions où le concessionnaire est très libre. Avec cette question de la faillite, en fait, en 1918-19, eh bien, en fait, on va avoir une implication des pouvoirs publics locaux, donc en l'occurrence pour les transports de surface, du Conseil général de la Seine, qui est un organe important, qui va devenir finalement ce qu'on appellerait aujourd'hui l'autorité organisatrice des transports, et qui va concéder ces transports sous la forme de ce qu'on appelle une régie intéressée à une compagnie nouvelle, qui est la Société des transports en commun de la région parisienne, société qui va unifier le transport par autobus et puis les tramways. Il y a quelques compagnies de tramways et tout cela fusionne au 1er janvier 1921 dans une compagnie donc assez tenue par les pouvoirs publics mais qui est une compagnie privée. Et cela dure jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Cette compagnie, donc, pendant sa vingtaine d'années d'existence, va démarrer par une très forte dynamique d'innovation qu'elle va beaucoup porter sur le tramway d'abord. Et en unifiant ses rames de tramway, en rénovant son tramway, etc., au long des années 20. Par la suite, elle va se concentrer aussi sur l'essor de son système d'autobus en développement et en commandant à des constructeurs, notamment Renault principalement, des autobus qui sont arrivés techniquement à maturité. En fait, l'autobus, c'est un mode qui naît dans les années 1905, 1906, 7. Et qui met quand même une bonne vingtaine, une trentaine d'années à être vraiment fiable et stable techniquement. Alors que le tramway était plus ancien, il est stable et fiable bien avant. Et donc la compagnie va commander des centaines et des centaines de bus à Renault, dont le fameux modèle qui va dominer les années 30 à partir de 1931, c'est le Renault TN. Ce Renault TN, c'est un bus qui est devenu la figure emblématique de l'autobus parisien, notamment, on va le voir, en raison de sa plateforme arrière. Et c'est l'autobus qui a été conçu pour remplacer le tramway. Et puisque Paris, comme Londres, simultanément, se caractérise en Europe par le fait que ce sont les deux plus grosses villes, les deux plus grosses agglomérations, et ce sont celles qui font le choix de substituer leur tramway par des autobus au long des années 30. Et Paris va être très active sur ce champ-là. En 1937, vous n'avez plus un seul tramway qui roule à Paris. En 1938, plus un seul en banlieue, sauf le réseau de Versailles qui ne durera jusqu'en 1957. Et donc on a une nécessité de remplacer des centaines et des centaines de tramways par des bus. Et donc c'est cette génération des TN qui va devenir la grande image, donner cette grande image du transport du milieu du XXe siècle à Paris, des transports de surface. Et donc c'est celui-là qu'on va aller regarder. Alors, de l'omnibus à l'autobus, en fait, on ne rompt pas complètement, mais on a tout un héritage hippomobile qui est très important, qui se voit directement dans le service à deux agents, dans la figure du receveur, qui se lie aussi dans la plateforme arrière, mais il se lie aussi dans la position du machiniste, celui qui était le cocher et qui devient le machiniste. Ce machiniste, en fait, il est situé en hauteur, isolé du reste du monde, des voyageurs et de son collègue receveur avec lequel il est lié par la sonnette qui permet de signaler le démarrage lorsque tous les voyageurs sont montés à bord. Ce machiniste, en fait, il est l'héritier direct du cocher, le cocher qui était quelqu'un situé en haut de l'omnibus, tout en avant, qui n'avait aucun contact avec les voyageurs et qui n'avait des contacts qu'avec ses chevaux. Et cette figure du cocher est une figure très animale, très quasi un peu frustre, rude, dans ce monde du 19e siècle, et le machiniste en est un héritier. Et on peut voir dans cette généalogie toute la difficulté qu'il va y avoir par la suite à faire du machiniste un machiniste receveur, quelqu'un qui est capable aussi d'avoir une dimension de ce qu'on appelle la relation de service, et donc une dimension commerciale, alors que son métier et sa position ne le conduisent uniquement qu'à s'occuper de la conduite de son véhicule. Autre élément sur la position de ce machiniste, c'est qu'il est situé sur le moteur, directement. Et il a donc toutes les émanations du moteur, il a la chaleur du moteur, et il est en plus très ouvert sur l'extérieur. Donc selon les saisons, selon la météo, c'est un métier qui est particulièrement difficile, ce qui conduira dans les années d'après la Seconde Guerre mondiale à ce qu'on appelle vestibuler, c'est-à-dire refermer la cabine de conduite et à offrir des conditions un peu meilleures. Ces conditions, en fait, dans les années 20 et 30, elles sont tout à fait normales. La plupart des véhicules sont ouverts. Ce n'est pas ce qu'on appelle des conduites intérieures, mais ce sont évidemment des conduites héritées du monde du cheval. Mais lorsqu'on avance dans le siècle, avec les années 50 et 60, ça devient quelque chose qui est complètement dépassé. Si bien que cette position extérieure contribue aussi, dans les années 50 et 60, à la perte de modernité du réseau d'autobus qui aura du mal à renouveler sa flotte de véhicules. Nous sommes ici sur la plateforme arrière, qui est la véritable icône du transport de surface à Paris. Et cette plateforme arrière, c'est aussi un héritage de la lipomobile. Au 19e siècle, lorsque la massification des transports impose de concevoir des véhicules plus capacitaires, eh bien à Londres d'abord, en 1851, on introduit ce qu'on appelle l'impérial, c'est-à-dire des voyageurs qui vont monter sur le toit et s'asseoir sur deux bancs, dos à dos comme ça, au deuxième étage du véhicule. Ça arrive très rapidement à Paris, dans les années 1853-55, et c'est généralisé au long de ces décennies qui mènent jusqu'à la guerre de 14. Lorsque la motorisation arrive, on va avoir des vitesses nouvelles qui sont atteintes. Alors des vitesses, le cheval c'était 6-7 km/h. Là on arrive à une vingtaine de km/h avec les premiers véhicules à moteur. Et qui dit vitesse augmentée avec ces véhicules qui étaient hauts, eh bien la stabilité a été mise un peu en danger. Et à Paris on a un accident, un véhicule qui chavire à Étoile. Et les transports parisiens décident donc de supprimer l'impérial et de donc concevoir autre chose. Et c'est Schneider, le constructeur des premiers autobus parisiens, qui propose d'agrandir l'espace réservé aux receveurs à l'arrière pour en faire un espace où on pourrait accueillir une dizaine de personnes debout. C'est ce qu'on appelle la plateforme. Et il s'agit là d'une spécificité parisienne, puisque d'autres villes, alors notamment Londres, mais c'est le cas à New York aussi par exemple, eh bien vont garder une impériale et vont travailler à améliorer la stabilité de leurs véhicules en les testant, etc., bien que motorisés. Cette impériale, elle est introduite donc dans les années 1910 et elle survit à Paris jusqu'en 1971, le 22 janvier 71, dernière circulation d'un autobus TN en service sur la ligne 21. Et ça veut dire que donc c'est une durée extrêmement longue. Et cette plateforme arrière, elle est extrêmement iconique du fonctionnement du système des transports parisiens. Et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, il faut bien comprendre qu'on a deux agents à bord. On a le machiniste et on a le receveur. Celui qu'au 19e siècle, on appelait le conducteur. Et le receveur, c'est celui qui, en fait, est le véritable chef, patron de la voiture. C'est lui qui va décider de qui monte, qui ne peut pas monter, est-ce que le véhicule peut accepter des voyageurs en plus, et alors comment ça fonctionne à l'arrêt. Quand le véhicule arrive à l'arrêt, en fait, il y a un certain nombre de gens qui attendent, qui veulent monter à bord, et ces gens-là se pressent. Alors, à Londres, ils font la queue, parce qu'on leur a dit, il y a eu pas mal de campagnes d'affichage pour dire faire la queue, il faut attendre dans l'ordre, etc. À Paris, on n'a pas fait ça. On a d'abord constaté que les gens se tapaient dessus, et puis après, on a essayé d'organiser cette queue, non pas en faisant confiance aux gens, mais en faisant confiance à un objet. Cet objet, c'est le numéro d'ordre. C'est un ticket qu'on peut retirer dans les années 20, à partir des années 20, à un distributeur de tickets avec un numéro. Et lorsque le receveur arrive, il se positionne dehors, à l'interface avec l'extérieur, et il appelle les numéros d'ordre. Il appelle le numéro le plus petit, Et c'est la personne qui a le numéro le plus petit monte à bord. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le nombre de places à bord de l'autobus soit atteint. Et une fois que c'est atteint, eh bien, il ferme la chaîne. Et il sonne le compteur. Voilà. Et il fait partir l'autobus. Et ainsi, il signale qu'il n'y a plus de place à bord. Alors, ceci pose des questions. En fait, le receveur a beaucoup de pouvoir, puisque c'est lui, finalement, qui décide de quand l'autobus est complet ou non. C'est lui qui décide de savoir s'il a envie de dire non à quelqu'un, d'accepter quelqu'un en plus, de créer une tension avec quelqu'un qui peut forcer le passage. Et on a des récits de scènes où ça se passe pas si bien, hein, voire des bagarres à bord, puisque l'autobus est fortement demandé, notamment dans les années 30. C'est aussi lui qui va laisser les enfants qui courent après l'autobus monter à l'arrière en sautant, qui est aussi un héritage hippomobile, puisque à l'époque hippomobile, on n'a pas d'arrêt fixe, on a des arrêts à la demande, et puis ça va tellement pas vite qu'on peut monter en sautant très facilement. Alors que là, on accélère un peu, mais on a encore une survivance de cette pratique jusque dans les années 50. Le receveur a donc est une figure centrale du fonctionnement de la société de l'autobus, bien au-delà de son simple statut, enfin sa simple mission de vendre des tickets, dont j'ai peu parlé, puisque finalement ce n'est qu'un aspect finalement assez mineur de l'ensemble des missions qu'il fait. Il est aussi celui qui va faciliter le trafic, qui va sortir, descendre, faciliter le passage du bus quand il y a un problème, etc. C'est quelqu'un de polyvalent qui a finalement, typiquement, hein, c'est la figure de ce qu'on appelle le street level bureaucrat, c'est celui qui est l'incarnation des règles, mais qui en fait les ajuste en fonction de son humeur du moment, son envie d'aller au conflit ou de laisser passer les choses. De même sur la question que je vais aborder également, qui est celle de la fraude. Lorsque dans les années 30, on a un usage très massif de l'autobus, la question de la fraude se pose. Alors, pourquoi elle se pose ? Elle se pose parce que face à cet usage massif, on veut aller de plus en plus vite, et une façon d'aller de plus en plus vite, c'est d'éviter qu'il y ait de la vente à bord. Le receveur, quand il vend ses tickets à bord, ça prend du temps. Il y a des échanges de monnaie, etc. Et donc, à partir de 26, la compagnie introduit des carnets de tickets qu'on achète en dehors, qu'on achète dans les bureaux de tabac, etc. Et donc là, les voyageurs arrivent avec un ticket déjà acheté et ça facilite, ça fluidifie la montée à bord. Et ça déplace, ce qui est intéressant, c'est que ça déplace complètement la question de la fraude. Jusqu'alors, la fraude, c'était celle du personnel. Et puisque c'est le receveur qui faisait monter en faisant payer sans donner le ticket, par exemple, et qui gardait l'argent pour lui, ou qui faisait des calculs, les tarifs étaient compliqués, des sections, etc. Donc c'était facile de pouvoir un peu arnaquer le client. Et là, en fait, ce carnet de tickets va déplacer la fraude en la plaçant du côté du voyageur. Et le voyageur, la compagnie, va dès lors, dans les années 30, rechercher les faux tickets fabriqués par les voyageurs. En fait, il y en a très peu, hein, mais et les façons d'éviter que le ticket qu'on donne soit marqué, où on puisse effacer le marquage, etc. Et le receveur, lui, va être équipé d'un système pour poinçonner les tickets qu'on lui présente, ce qui s'appelle la moulinette. Un objet qui pèse 2,5 kg, il a un baudrier pour la porter, c'est quelque chose qui est lourd, qui fait mal au dos et qui a marqué aussi les receveurs dans leur métier. Et cette fraude, on a en fait, le receveur c'est pareil, il a aussi la possibilité d'appliquer ou non, de laisser passer les gens sans les faire payer, il se considère comme quelqu'un de l'ordre du service, de la relation de service et pas du contrôle. Mais on a des équipes de contrôleurs qui sont montées dans les années 30, et on passe de contrôleurs qui d'abord étaient ce qu'on appelle des mouches, c'est-à-dire des gens en civil qui vérifiaient que les agents receveurs faisaient bien leur travail et aussi que les machinistes n'allaient pas trop vite, voire ils étaient dans la rue, ils étaient à bord, etc. Et on va passer à des contrôleurs pour contrôler les voyageurs. Sauf qu'à bord d'un autobus tel qu'il est configuré, où on monte par l'arrière et où on doit montrer son ticket au receveur, il est très difficile de savoir qui fraude, qui ne fraude pas. Vous pouvez dire que le receveur n'est pas venu vous voir. Et donc, quand vous êtes à bord, vous dites « oui, je l'attends ». Et tant qu'il n'est pas venu vous voir, vous n'êtes pas vraiment en situation de fraude. On ne peut montrer la fraude que lorsque vous descendez et que vous n'avez pas de ticket. C'est ce qu'on a. Donc, la seule situation où on peut vous prendre en fraude, c'est ce moment-là. Parce qu'une fois que vous êtes descendu sur l'espace public, vous n'êtes plus un voyageur, vous êtes un piéton. Et donc, vous n'êtes plus en fraude. Donc, il y a toute une ambivalence sur cette fraude qui pose beaucoup de problèmes, qui est assez dangereuse, puisque vérifier au moment où on descend, c'est tout de suite des chutes. Et c'est des moments de tension très forte entre la compagnie qui veut les mettre en place et puis les pouvoirs publics, la préfecture de police qui dit non, c'est trop dangereux, ça ne marche pas. Donc on a vraiment des tensions assez fortes sur ces questions de fraude, mais comme toujours, il est très difficile de connaître les taux de fraude. Les compagnies bon, se rassurent peut-être en estimant que c'est de l'ordre de 4-5% dans ces années 30, mais souvent on constate qu'il y a une hausse de la fraude après les guerres. Parce qu'on a une empathie globale liée au traumatisme. Mais évidemment, en historien, il est très difficile d'estimer la fraude, si ce n'est que pour avoir fait des entretiens avec différentes personnes ayant travaillé dans les transports en commun dans l'entre-deux-guerres, eh bien, il y a différents trucs de fraude qui sont suffisamment connus pour qu'on puisse estimer qu'ils aient été largement utilisés. Lorsque l'on monte à bord, eh bien, on doit assez vite choisir de s'installer en première ou en deuxième classe. Bien souvent, il y a beaucoup de monde à bord et en fait, ce choix se fait uniquement en fonction des places disponibles. Il existe deux classes. La première est tout au fond et elle est caractérisée initialement par des sièges en cuir. La deuxième, c'est celle qu'on voit en entrant, c'est celle qui est marquée par des sièges en bois, ce qu'on appelle des noyaux de pêche, qui font assez mal quand on s'assoit. Et donc, cette distinction de classe, qui est hérité du 19e siècle entre l'intérieur de l'omnibus et l'impérial moins cher, eh bien cette distinction de classe disparaît avec la Seconde Guerre mondiale et avec la volonté de mieux occuper l'espace en période l'espace des bus en période tendue. Et donc il est considéré qu'on va essayer de faire bon, finalement qu'une seule classe qui est cette seconde classe. Et donc c'est une décision de Vichy hein, de supprimer ces deux classes en 1942. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire que dans l'esprit de Vichy, ce qui se passe, c'est qu'on ne fait pas tellement disparaître la seconde classe, enfin, on ne fait pas disparaître la première classe, mais on fait plutôt disparaître la seconde classe, puisque, en fait, dans l'esprit des décideurs de Vichy, la première classe, c'est l'autobus, et la seconde classe, c'est le métro. Et on va avoir la masse pour le métro, et une sorte d'élitisme qu'on méprise aussi un petit peu quand même, serait cette première classe de l'autobus qui coûte plus cher aux voyageurs kilomètres. Lorsqu'arrive la Seconde Guerre mondiale, les autobus parisiens sont de nouveau mobilisés par l'armée française. Alors au début, c'est la drôle de guerre, donc ils sont envoyés pour les besoins militaires, mais ils sont peu utilisés puisqu'il y a peu de combats. Et puis surtout que l'armée dispose de bien beaucoup plus de poids lourds qu'elle n'en avait en 1914. Donc la première utilisation des bus pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est d'aller emmener des troupes françaises quand même un petit peu sur le front de l'Est, enfin de l'Est de la France. Et lorsque la défaite est ancrée hein, au printemps 40, eh bien là, ces bus vont être utilisés par l'armée allemande, par les autorités de Vichy et par la police française pour différents usages. Pour le ravitaillement de Paris, on va aller chercher à la campagne des légumes, etc. Et puis, surtout, l'usage le plus connu, hein, c'est celui de la rafle du Vel'd'Hiv', les 16 et 17 juillet 1942, où ces autobus vont être utilisés pour aller chercher les Juifs dans les rues parisiennes et les amener au Vel'd'Hiv', puis après les véhiculer jusqu'à des gares du nord de la banlieue parisienne pour être emmenés en Allemagne. Et les autobus ont été une clé du fonctionnement de cette industrialisation de la rafle, puisque la police française les a utilisés. Et on a retrouvé, j'ai pu retrouver les documents d'utilisation, témoignant de l'utilisation de ces bus, et notamment du paiement du carburant pour cette utilisation exceptionnelle d'entre les 16 et 17 juillet 1942. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce même objet, à la Libération, sert pour ramener les prisonniers de guerre et les déportés qui arrivent en train jusqu'aux gares de l'Est et du Nord, et qui sont ramenés par ces mêmes véhicules dans des centres pour les aides d'accueil, d'hébergement. Et ces mêmes autobus sont aussi utilisés par l'armée américaine quand elle arrive à Paris pour différents usages, si bien que ce même véhicule qui a très bien pu être introduit dans les années 30, qui a servi à des voyageurs dans ces années 30, va servir successivement à différentes autorités de façon assez contradictoire, puis être réutilisé dans les années 50 et 60, toujours pour des voyageurs. On a bien ici une illustration du fait que la technique peut être investie par des entités ou des buts moraux successifs et que la technique n'est pas forcément porteuse de valeur morale en tant que telle. La Seconde Guerre mondiale va imposer de revoir les choix énergétiques du réseau, puisque le mélange qui est utilisé jusqu'alors par les véhicules TN, qui s'appelle le mélange ternaire, est contraint. Ce mélange ternaire contenait de l'essence, de l'alcool et du benzène. Et en fait, ces trois carburants sont contraints par les conditions de guerre, si bien que le réseau est contraint de chercher d'autres solutions. Parmi ces solutions, il y aura bien sûr d'abord le gazogène qui est resté célèbre, mais qui n'est pas très efficace, qui est assez dangereux. Il y a surtout eu le gaz avec une flotte assez importante de centaines d'autobus à gaz avec une grosse réserve de gaz sur le toit qui a été très efficace et sans aucun incident. Et puis, ce que les autorités de Vichy et surtout les autorités allemandes souhaitent développer, c'est l'électricité. L'électricité, c'est-à-dire le trolleybus. Alors, le trolleybus, c'est quelque chose qui a été mis au point dans les années 20 et surtout les années 30 et qui s'est beaucoup développé en Grande-Bretagne. Londres a remplacé ses tramways par des trolleybus et à la fin des années 30, il y avait environ 3000 trolleybus à Londres, des trolleybus à étage. En France, en revanche, il y avait 80 trolleybus simplement lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale. Ils sont essentiellement à Lyon et à Alger. À Paris, il n'y en a pas un seul. Pourquoi? Puisqu'en fait, eh bien, c'est essentiellement lié au fait que institutionnellement, le monde des transports de surface, qui est le monde du pneu et du pétrole, est distinct du monde du souterrain, le monde du métro, qui est celui de l'électricité et du rail. Alors qu'à Londres, eh bien, tout cela a été unifié bien avant Paris. Et donc, du coup, on a plutôt des relations de tension entre ces deux mondes, si bien que l'électricité ne fait pas partie des choix des possibles du réseau de surface. En revanche, sous la pression allemande, pendant la guerre, eh bien, on va développer des projets d'électrification avec des très grands projets de milliers de trolleybus qui sont envisagés et on commence à essayer de construire des lignes. Mais le trolleybus, eh bien, c'est une solution certes intéressante, mais qui nécessite du cuivre pour tirer du câble. Et en fait, eh bien, pendant la guerre, le cuivre est un matériau très, très recherché que l'armée allemande finalement aussi utilise de façon prioritaire. Et donc, les transports parisiens ont du mal à équiper des lignes en câbles électriques. Et par ailleurs, il faut de l'électricité. Or, l'électricité est aussi comptée. Et il y a une négociation entre les Allemands et les autorités parisiennes qui font qu'on va fermer la station Corvisart de métro sur la ligne 6 en décembre 1942 pour pouvoir ouvrir au janvier 1943 une première ligne de trolleybus qui partira de la porte de Champéret, puis une deuxième ligne. Mais à la fin de la guerre, eh bien, en fait, il n'y a que deux lignes de trolleybus, soit quelques dizaines de véhicules qui ont été donc mises en service. C'est très peu par rapport à l'énorme plan qui était envisagé d'électrification et qui a été un échec. Lorsque la libération et puis la paix, en fait, on n'a pas de nécessité de relancer l'électricité, puisque en fait arrive la grande ère du diesel, qui arrive notamment sous l'influence britannique. Et donc, on a juste une sorte de queue de comète, qui sont deux lignes, qui sont ouvertes après la guerre, au départ de la porte de Choisy, dont on voit ici un véhicule, et qui en fait vont être très résiduelles et finalement. Elle ferme dans les années 60 et ça reste extrêmement marginal sur le réseau parisien. L'essentiel de ces véhicules sont d'ailleurs revendus à Limoges, qui est peut-être l'une des deux grandes villes du trolleybus en France, avec Lyon, Saint-Étienne, un petit peu Marseille aussi. Un trolleybus, on en a ici un bel exemple de la marque Vetra, hein, la grande marque française de ce domaine. Et on voyait que eh bien, son alimentation aérienne est assurée par deux câbles. Puisque contrairement au tramway qui a un retour électrique par les rails, le trolleybus n'a pas de retour électrique par le sol puisqu'il est sur pneus et donc on doit tirer deux câbles. Et ces deux câbles sont liés à une perche qui régulièrement se décroche. Donc on a aussi toutes ces questions de comment est-ce qu'il faut assurer le suivi du fonctionnement de ces véhicules, et le rôle du receveur en l'occurrence est important. Nous voici donc dans les années 50. Alors pour comprendre les années 50, il faut d'abord noter que l'État de Vichy a décidé de fusionner les transports de surface et les transports souterrains au sein de la Compagnie du Métropolitain de Paris, qui récupère donc le transport de surface au 1er janvier 1942. Et cette fusion en fait, est définitive. Et puis la Libération récupère cette organisation, ce qui donne naissance à la RATP le 1er janvier 1949. Cette RATP, donc, qui est en fait une entreprise d'État, exploite donc un métro, et puis de façon souvent un peu secondaire dans l'esprit de ses dirigeants, aussi le réseau d'autobus. Elle fait donc partie des grandes entreprises nationales, celles qui ont été nationalisées ou constituées alors. On peut penser à EDF, on peut penser bien sûr à la Régie nationale des usines Renault. Et dans cette dynamique, la RATP s'inscrit dans ce mythe de la reconstruction, de la modernisation, de l'essor des Trente Glorieuses. Et pour cela, elle cherche à récupérer ses autobus éparpillés avec la Seconde Guerre mondiale, qui sont un peu partout en France. Et puis surtout, elle lance un programme de construction de nouveaux véhicules. Ces nouveaux véhicules qui vont permettre de faire revenir un service tout en rompant pour l'essentiel avec un certain nombre de logiques anciennes, celles qui étaient héritées de l'hippomobile. Et ici, on a l'exemple de ce Somua OP5 qui fait partie de cette première génération des nouveaux autobus 1950. Et c'est donc reconstruit en partie avec du matériel américain, Westinghouse, pour un certain nombre d'éléments constitutifs du tableau de bord. Et en fait, ce véhicule est très particulier puisqu'il va rompre avec la plateforme arrière en imposant un sens de circulation aux voyageurs tout nouveau. On rentre par l'arrière, mais on sort par l'avant. On a ainsi une entrée et une sortie différentes qui permettent plus de fluidité et qui permettent ainsi d'aller plus vite dans l'exploitation et d'économiser, bien sûr, puisqu'on a moins besoin de véhicules, d'agents pour un même service. Et deuxième innovation importante, le receveur, dont beaucoup trouvaient que ce métier était difficile, très fatigant, va obtenir un siège. Et non seulement il a un siège, mais il a une cabine. Ça devient un receveur à poste fixe. Et il est enfermé dans sa cabine, où sa seule mission consiste désormais à vendre ses tickets. Et donc, il a certes la main sur les éclairages, les portes, etc., mais il est coincé dans sa cabine. Et ce receveur, perd en fait un certain nombre de ses missions non officielles, tacites, celle du renseignement, celle de laisser entrer une personne qu'il voit arriver au loin sur la plateforme et qu'il ne peut plus voir, puisqu'en fait, maintenant, il tourne le dos finalement à l'extérieur et il ne peut plus avoir ce pouvoir qui faisait son statut, et se trouve un peu relégué par ce qui est une amélioration de son confort, mais ce qui est une relégation de ses missions. Autre évolution, le machiniste n'est plus sur le moteur, mais se trouve dans des conditions un peu mieux en termes de confort, puisqu'il est sur un siège qui est à côté du moteur, ce qui lui permet d'être un peu dans des conditions meilleures. Néanmoins, il demeure un agent de conduite et il y a encore écrit tout en haut, il est interdit de parler aux machines, ce qui est encore ancré dans le fait que le machiniste n'est pas un métier du service, de la relation de service, et reste quelqu'un d'extérieur à toute cette dimension commerciale du réseau qui est portée par un receveur, mais qu'on a limité et contraint dans son espace physique. Cette volonté de modernisation de la jeune RATP va se heurter à plusieurs difficultés. Premièrement, des difficultés financières. On a aussi la même dynamique sur le métro, d'ailleurs avec le métro sur pneumatique, mais rapidement, cette nouvelle entreprise a du mal à assurer des salaires à la hauteur de ce que les autres entreprises privées, notamment, peuvent offrir à un moment où il y a un essor économique, mais la RATP a du mal à suivre. Et si bien que les années 50 deviennent difficiles alors qu'elles devaient être prometteuses. Deuxième difficulté, évidemment, l'essor de l'automobile. Autant les États-Unis ont connu une démocratisation de l'automobile dès les années 20 et 30. Autant l'Europe connaît, l'Europe occidentale connaît une démocratisation de l'automobile dans les années 55-65. Et à partir de là, eh bien, l'autobus, qui était dominant sur la chaussée, se trouve englué dans les embouteillages. Et donc, ses vitesses commerciales se réduisent, sa fiabilité, sa régularité s'amenuise, et surtout, son public se réduit, puisqu'en fait, bon nombre de ses anciens adeptes vont devenir des nouveaux automobilistes. Si bien qu'il va se trouver avec un public résiduel, constitué de personnes qui n'ont pas encore le permis, hein, les jeunes, constitué de personnes qui ne l'ont pas, qui ne l'auront probablement jamais, les plus âgés, et un public qui aussi assez fortement va se féminiser par défaut, puisque les hommes vont partir conduire leur voiture. Donc on a ici, au long des années 55, 60, jusqu'à la fin des années 60, hein, un enlisement de l'autobus, du réseau, et qui n'aura de cesse de chercher des solutions pour essayer de répondre face à ces nouvelles contraintes. Et ces solutions, on va les voir, elles passent d'abord par les véhicules, mais elles sont surtout les plus efficaces, sont soit sur l'espace public, c'est la question des couloirs de bus, soit tarifaire, c'est la question de la carte orange. La RATP donc, doit répondre à cette pression extérieure qui est celle de l'automobilisation, qui est celle aussi de sa perte d'image, puisque dans ces années 60, elle exploite toujours des Renault TN des années 30, hein, qui donc sont en état de ringardisation, peut-on dire. Et parmi les solutions qu'elle envisage, il y a la solution de faire de proposer des véhicules de petit gabarit, avec l'idée, selon la logique de la mécanique des fluides, que des petites particules seraient plus mobiles facilement que des grosses. Et donc, en 1961, est proposée une offre de bus à petit gabarit, ce qu'on appelle les bus bleus ou les petits bus Vernet, qui sont en fait proposés dans l'ouest parisien, deux lignes pour relier des parkings relais, soit aux Invalides, soit à la Porte Maillot, avec le cœur du quartier d'affaires parisien, d'une part donc du côté du quartier de l'Opéra Saint-Lazare. Et ces petits bus Vernet, de couleur bleue, car ils correspondent à la logique du stationnement des disques bleus, puisque dans cette zone, le stationnement était limité en temps pour les véhicules privés, et l'idée étant d'avoir un report modal vers le petit bus bleu. Ces bus bleus sont la modernité. On a le droit d'y fumer à bord. On a un confort également qui est important, et on vise clairement une catégorie sociale supérieure de cadres. Et tout est calé sur les horaires de travail, et le service disparaît au mois d'août, puisqu'il s'agit de répondre aux déplacements domicile-travail de la population la plus aisée de l'Ouest parisien. Cette solution, que la RATP n'avait pas forcément promu elle-même, hein, elle vient plutôt des pouvoirs publics, des élus, eh bien en fait elle va rapidement s'avérer être un échec, puisque la fréquentation est finalement assez faible, et peu de gens viennent réellement du monde de l'automobile pour utiliser ces véhicules, et surtout les vitesses réelles ne sont pas bien meilleures qu'avec des véhicules plus longs. Cette idée selon laquelle des véhicules de petite taille seraient meilleurs pour mieux se faufiler, elle est fausse, ça ne fonctionne pas. Et donc en 65, ces deux lignes sont arrêtées. La solution d'un véhicule de forme différente pour trouver sa place dans le trafic, elle est aussi essayée avec un véhicule à étage, celui qu'on appelle le PCMR-E, qui est en fait un autobus standard de Berliet, avec une impériale. C'est le retour de l'impériale dans l'espace parisien. Alors, ça nous fait bien sûr penser à la mode londonienne, mais il y a des différences. Hein. Par exemple, l'autobus à étage parisien va avoir deux escaliers, un pour la montée, un pour la descente, alors qu'à Londres, on a un seul escalier. Et puis surtout, bah, il n'a pas que des qualités. Hein. Son impériale est un peu basse, on ne s'y sent pas très à l'aise. Et ce véhicule va être essayé sur quelques lignes, produit à peu d'exemplaires, et finalement il ne trouve pas son public, et la RATP n'en voulait pas trop non plus, hein, donc il n'est pas adopté, et finalement lancé en 1966, Il est abandonné dans les années 70 au profit d'une autre solution, hein. La véritable solution pour sauver l'autobus, eh bien, elle est double. C'est d'une part une solution volontariste fondée sur l'autobus, d'autre part une solution un peu plus opportuniste qui n'est pas fondée sur l'autobus. La première, c'est le couloir d'autobus. Le couloir d'autobus, c'est quelque chose que la RATP réclame au pouvoir public depuis longtemps et qui n'est finalement accordé par la préfecture de police qu'en 1964. Alors, à la fois, c'est peut-être tardif, à la fois, c'est le même mouvement que dans les autres villes européennes. Dans la même année, on a un couloir qui va être créé à Rome et puis en 68 à Londres. Donc, c'est vraiment ce moment-là hein, de réaction à l'automobile où on crée ces couloirs d'autobus. Le premier quai de la Mégisserie, on le met le long d'un espace où il n'y a pas de commerce afin d'éviter les réprimandes, on va dire, des commerçants qui ne sont pas contents d'avoir des voitures qui ne pourraient plus stationner devant chez eux. Et ce couloir, eh bien, très rapidement, c'est une grande efficacité pour la vitesse, mais surtout pour la régularité, qui est très important pour un exploitant, c'est la régularité. Et donc, ces couloirs vont être généralisés. Dans les années 70, on va essayer d'équiper les grands axes parisiens de couloirs qu'on va essayer de mutualiser au maximum entre différentes lignes. On va réaligner les lignes sur ces couloirs, une sorte d'haussmannisation, pourrait-on dire, du réseau d'autobus qui va quitter les petits quartiers au profit de grosses artères bien équipées en couloirs. Alors certes, ces couloirs sont plus ou moins bien respectés, mais on va en surveiller aussi, hein, déployer des forces motorisées de policiers pour vérifier que le stationnement sauvage ne s'y fait pas trop. Et le couloir est donc une arme très efficace pour sauver l'autobus et lui faire regagner en vitesse et en régularité. L'autre élément qui va sauver le réseau et qui lui est quasiment extérieur, c'est la carte orange. La carte orange, elle est créée pour la desserte de ce qu'on pourrait appeler le Grand Paris, le Paris du RER, en 1975. Et il s'agit d'avoir un abonnement domicile-travail, pour les déplacements domicile-travail, un abonnement mensuel. Ce que les syndicats de la gauche, du PSU, et dans les années 70, demandaient comme étant la carte de déplacement payée par les patrons, eh bien c'est ça, c'est cette carte orange 75. Et cette carte orange va relancer le bus, puisqu'en fait, on va pouvoir l'utiliser sans payer de frais supplémentaires pour chaque trajet. Donc de façon opportuniste, pour 2-3 stations, je monte à bord du bus, je redescends, sans avoir payé, sans avoir le sentiment d'avoir payé, puisque j'ai un abonnement. Et cet abonnement, beaucoup l'ont pris pour le RER, voire pour le métro, pas pour l'autobus, mais il va susciter un fort accroissement de la fréquentation des bus du fait de cette facilité et du fait que ça devient gratuit, en fait, de prendre un trajet supplémentaire. Il n'y a aucun coût. Donc ça, c'est des solutions qui vont relancer le réseau. D'un point de vue du matériel, eh bien, la dynamique, c'était aussi... c'est la même période, c'est-à-dire que en 1963, la RATP, suite aux échecs des petits bus, se dit que en fait, la solution réside plutôt dans un autobus standard qui soit le même pour l'ensemble de ces lignes, de banlieue comme de Paris. Et cet autobus standard, eh bien, celui qu'on va appeler l'autobus standard, c'est son nom, va être déployé à partir de 1965. C'est un autobus qui est construit par deux constructeurs, hein. On va avoir des autobus Saviem et Berliet, et Vernet va abandonner le projet. Et essentiellement Saviem, le fameux SC10, qui est un autobus moderne, qui est un autobus confortable, qui est un autobus peu cher et fiable, très efficace, très apprécié, et qui va et c'est celui que l'on voit ici, qui offre des banquettes en cuir restées un petit peu, enfin pas en cuir, des banquettes qui sont restées peut-être dans la mémoire des Parisiens parce qu'elles sont très confortables, contrairement à celles des années 30 par exemple. Et surtout, ces véhicules correspondent à la nouvelle politique de la régie, celle de l'exploitation qu'on appelle à un agent, le machiniste et le receveur. Ce binôme ancien, celui héritier du monde du cheval, disparaît progressivement dans les années 60 jusqu'en 1971 au profit d'une seule figure qui est le machiniste receveur. Le machiniste receveur, c'est celui qui en fait est un machiniste à qui on demande d'avoir cette dimension commercial. Et il va donc accueillir les voyageurs qui désormais montent par l'avant et vont descendre par l'arrière. On inverse le sens historique de fonctionnement des véhicules et le machiniste va donc être chargé un peu de vente, mais on essaie d'extérioriser au maximum la vente de tickets, et il va être surtout chargé de vérifier que les voyageurs poinçonnent bien leurs tickets en entrant grâce au bruit que fait l'appareil d'oblitération. Et il conduit les machinistes l'essentiel du temps, et à l'arrêt, il devient un receveur. Mais bien sûr, il ne fait pas toutes les tâches que faisait le receveur, et il vient d'un monde où on a interdit aux machinistes de parler, où on ne parlait pas, c'était quelqu'un d'extérieur. Donc on a toute une ambivalence quasi de métier sur ce qui est demandé aux machinistes receveurs. Cette logique est issue d'une dynamique beaucoup plus globale de rationalisation des entreprises publiques, notamment portée par le rapport Nora de 1967, qui cherche à rendre les entreprises publiques plus efficaces, notamment financièrement. Et la suppression des receveurs s'inscrit dans cette lignée. Elle a permis de réduire très fortement le nombre de salariés, puisque en fait on avait 4500 receveurs qui sont devenus en partie machinistes ou réaffectés dans des bureaux. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait cette suppression du receveur s'est traduite par un ralentissement de l'exploitation, puisque le receveur était en fait une sorte de permettait la fluidification des échanges. Et là, eh bien en fait, on a une exploitation ralentie sur le moment. Et donc, en fait, finalement, on doit acheter plus de bus et en mettre plus en exploitation pour offrir le même service. Donc, voici cette modernisation qui passe aussi bien par les transformations de l'espace public, de l'espace de tarification et que du matériel roulant, qui permet la relance de l'autobus. Le contexte aussi aide, puisqu'à partir de mai 68, de l'émergence des questions environnementales, la création du ministère de l'Environnement et du cadre de vie en 1971, eh bien, en fait, on a un souci nouveau pour les transports publics, une relance des transports publics qui, en région parisienne, passe par le RER et qui, en province aussi, passe par l'ouverture de métro en 77 à Lyon ou à Marseille. Et donc, le réseau d'autobus est désormais lancé dans cette dynamique dans laquelle nous sommes en grande partie. Nous avons en fait des héritiers des autobus standards qui certes aujourd'hui sont à plancher bas, sont plus accessibles, mais restent dans cette même lignée avec une exploitation qui est très largement standardisée par rapport à ce qu'elle a pu être auparavant. Et notamment la disparition des deux agents fait que tout ce qui était l'ambiance à bord disparaît, puisqu'on n'a plus d'agents qui bougent et qui en fait participent d'une différenciation de ce qui se passe à bord par rapport à ce qui se passe à bord d'un autre autobus. Là, en fait, on a une très forte standardisation, voire même tout simplement une forme de déshumanisation, puisque avec les années 80, on va avoir des bus articulés qui vont se mettre en place, et là, vous pourrez rentrer par une porte sans même voir le machiniste et redescendre sans avoir vu le moindre agent de la RATP. Donc là, on a une toute autre forme de fonctionnement, celle qui en fait s'inspire du réseau de métro. Et l'autobus, parmi les différentes innovations en fait qu'on voit venir, eh bien en fait c'est en faire un métro de surface. Et dans cette fusion de la RATP qu'on connaît entre métro et autobus, finalement il s'agit bien d'une victoire finale du métro qui a réussi à faire en sorte que son cousin de surface devienne un métro de surface, l'expression ultime étant le tramway, hein, qui présente l'hybridation quasi optimale entre ces deux réseaux. Dans ce mouvement de standardisation que la RATP met en place entre milieu des années 60 et puis les années 70, eh bien, en fait, il y a un objet étonnant qui apparaît, qui est le retour de la plateforme arrière. C'est quelque chose qui est tout à fait fortuit, puisqu'il y a un accident un jour d'un autobus qui est accidenté par l'arrière, et les agents de l'atelier central de Championnet, dans le 18e arrondissement, eh bien, choisissent de le réparer en réinventant une plateforme arrière sur un autobus standard. Et cette plateforme arrière, eh bien, en fait, va connaître un très fort succès d'image, va relancer l'affect qu'on pourrait avoir porté à ces autobus. Et plusieurs lignes vont être exploitées avec cette plateforme rénovée, qui n'est plus un lieu de passage, comme l'était celle des années 20 ou 30, mais qui est un lieu, au contraire, de station debout, où on va profiter du paysage et de ce sentiment de voyage, voire de navigation, pour prendre l'analogie maritime quasiment, du bus à travers les rues de Paris. Cette plateforme arrière, en fait, elle réinvente aussi, elle retrouve plutôt les logiques qui étaient celles de l'impérial du 19e siècle, puisqu'on s'aperçoit qu'elle est fréquentée essentiellement par des hommes et essentiellement par des hommes jeunes. Et c'était déjà le cas de l'impérial du 19e siècle qui était interdite aux femmes. Et on va y retrouver la figure de l'homme jeune qui fume et qui lit son journal. C'est la grande figure qu'on avait déjà sur l'impérial et qu'on retrouve sur la plateforme arrière des années 20-30 sur les TN et qu'on va réinventer sur les autobus standards. Cette distinction de genre est intéressante puisque, au contraire, l'intérieur, celui au 19e siècle de l'omnibus, était un espace du féminin. Et en fait, les études que la RATP commence à faire dans les années 70 sur des études commerciales, c'est tout nouveau, montrent que les femmes vont justement s'installer proches du conducteur, du machiniste, entre l'entrée et la porte du milieu, et que l'espace du féminin se trouve là, l'espace du masculin est bien au contraire au fond, là où justement la RATP a du mal à faire remplir ses bus jusqu'au fond, et la plateforme arrière est une façon aussi d'inciter les gens à aller vers l'arrière. Mais néanmoins, la logique globale est celle d'une standardisation du matériel. Il n'y aura que quelques dizaines d'autobus standards à plateforme arrière, même s'ils sont très promus d'un point de vue médiatique, ils restent marginaux. Et la logique bien plus forte, la dynamique de temps long, est celle d'une suppression de cet espace arrière qui arrive avec les autobus des années 80, ceux qu'on va appeler les R312, qui vont pour la première fois avoir le moteur à l'arrière. Et à partir du moment où le moteur est à l'arrière, il n'y a plus de relation possible avec l'extérieur par ce biais. Et donc on est dans une autre logique, celle de la standardisation. Et d'ailleurs, les véhicules sont de moins en moins parisiens et de plus en plus internationaux produits par des firmes diverses. Il est intéressant de noter, après avoir parcouru cette histoire de l'autobus parisien, que Paris ne s'est pas autant identifié à ces autobus que bien sûr Londres, qui reste aujourd'hui encore la grande ville associée à ces bus. Paris est associée essentiellement à son métro. Elle a été associée à sa plateforme arrière d'autobus, mais ça reste néanmoins un symbole secondaire par rapport aux Guimard, aux entourages Guimard, au métro, et à donc, toute cette identification très forte Paris-métro. Londres, au contraire, a pleinement investi ce symbole de l'autobus à étage, devenu rouge dès 1907, et elle n'était pourtant pas la seule à avoir des autobus à étage, mais elle a entretenu cette symbolique très fortement. Les deux villes ont échangé depuis le 19e siècle. Depuis les années 1828-29, on a des échanges entre Londres et Paris sur les questions de transports urbains, très forts, très intenses, réguliers, récurrents. Néanmoins, en fait, on peut constater que les deux réseaux, autobus, métro de chaque côté, sont extrêmement différents, n'ont absolument rien à voir dans les enjeux symboliques comme dans leurs pratiques. Pourquoi ? Essentiellement pour des raisons de densité, et de répartition de la population et de murailles finalement, puisque Londres, très longtemps avant Paris, a abattu ses murailles, puisqu'en fait, les fortifications de Londres, c'est la mer autour de l'Angleterre. Alors que Paris, à contre-courant de l'ensemble des villes européennes au XIXe siècle, s'est reconstruit les murailles en 1840 et a donc réinvesti très fortement le cœur de la ville comme étant le lieu où il se passe quelque chose, ce qui fait qu'on a une surdensité à Paris, qui correspond à un métro qui a été très dense, qui est beaucoup plus dense qu'à Londres, avec un interstation de 500 mètres contre 1 km à Londres. Et donc, le bus a du mal à trouver sa place face à un réseau aussi dense de métro. Au contraire, à Londres, avec un métro beaucoup plus lâche, le bus trouve beaucoup plus facilement sa place, sa pertinence, puisque une station de métro londonienne va desservir un territoire 4 fois plus grand qu'une station de métro parisienne. D'où la pertinence d'avoir un réseau intermédiaire, qui est ce réseau d'autobus à qui on fait beaucoup plus confiance et qu'on va beaucoup plus magnifier à Londres qu'à Paris. Dernier élément, Londres est aussi la ville qui a beaucoup inventé la communication autour des transports publics, notamment tout ce qui est la communication vis-à-vis des voyageurs sur les cartographies de ces réseaux, mais aussi à l'extérieur. Et Londres fait circuler dans le monde ces autobus, que ce soit, par exemple, un des plus connus pour ce qui est de Paris, c'est l'autobus qui a... Il y a un autobus, lorsque le Tour de France est parti de Londres en 2007, eh bien, en fait, un des bus qui a été utilisé, londonien, pour cet événement, a été offert à Paris par la suite, et il se retrouve ici à Villeneuve-Saint-Georges dans les réserves de la RATP, signe encore s'il en était d'un échange continu entre les deux villes.